au niveau de la veille. À Paris, le CAC 40 doit se satisfaire d'une petite baisse de 0,08% à 3888 points dans un volume d'affaires d'1,5 milliard d'euros négocié. Sur le marché des devises, l'euro progresse très modestement de 0,08%. Il est à 1,3038 $, alors que sur les marchés de l'or, l'once a repris 1,90 $ à Londres à 426,40. Je vous rappelle que le CAC 40 est en toute petite baisse de 0,06% maintenant à 3888 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Merci Antoine. Les courses à Cagnes-sur-Mer avec l'arrivée de la première. 13, 5, 14, 17 et 8. Notez bien qu'il y a photo entre le 14 et le 17. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
Bonjour, aujourd'hui deuxième partie de notre série exceptionnelle de 2000 ans d'histoire sur les camps, le retour des déportés.
Ici Henri Perlman, je suis très heureux d'être rentré à Paris, mon paname que j'aime tant, mais hélas j'ai une grande peine, c'est que ma femme est restée en Allemagne dans un camp de concentration. Alors je suis triste, c'est tout, je ne peux rien dire d'autre, tellement que je suis.
D'histoire. Il aura fallu des années pour comprendre qu'à cause des camps de concentration, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas été une guerre comme les autres. Non seulement en raison du nombre de ses victimes, beaucoup plus élevé que dans les guerres précédentes, ni même à cause des crimes de guerre, mais parce que pour la première fois, on avait découvert et donné son nom à un crime sans précédent dans l'histoire, le crime contre l'humanité. Pourtant, quand ils sont revenus chez eux, les déportés osaient à peine parler de ce qu'ils avaient vu et subi dans les camps de concentration et d'extermination du Troisième Reich. Comment décrire l'indescriptible sans provoquer le scepticisme et surtout sans gâcher la fête de la victoire? Quand, le 8 mai 1945, dans les rues de Paris, certains célébraient la victoire, tandis que d'autres attendaient encore le retour d'un père, d'une mère, d'un frère ou d'une sœur, sans savoir s'ils reviendraient jamais de l'enfer.
Et toi, madame, ça vous fait plaisir de voir cette musique en ce
moment? Oh, je pense bien, monsieur, vive l'armée française!
Hein, t'es content,
oh,
hein,
monsieur?
Formidable, hein, formidable!
Les petits gars! D'abord, on est très content d'avoir gagné, on tâchera de faire mieux la prochaine fois!
Allez, dis! Je suis content, papa est rentré hier soir!
Non, papa est rentré hier soir! T'es contente?
Oui! Oh, ben, voulez-vous, on est bien content.
Enfin, on est ému, même, vous êtes très ému, je vois, je vous comprends.
Je
vous reviendra.
Il reviendra, monsieur, certainement. Et bientôt, je vous assure, maintenant la guerre est finie et tous les hommes qui sont là-bas vont revenir très vite, je vous assure, très vite.
Eh bien, mon petit.
Ne pleure pas,
monsieur.
Ne pleure pas. Il va revenir bientôt.
Courage, vous savez, tout le monde reviendra bientôt.
Annette Vivorca, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a des archives comme celle-là qui se passent de commentaires, hein, la détresse d'un enfant le jour même où Paris fête la victoire sur l'Allemagne le 8 mai 1945. Un enfant dont on ne sait pas très bien s'il attend un père prisonnier ou déporté. Il est vrai qu'à cette époque, on ne faisait pas bien la distinction entre les deux, ces deux catégories de gens qui étaient prisonniers en Allemagne.
Si vous me permettez, je peux rajouter une troisième catégorie qui sont les requis du service du travail obligatoire. Si bien qu'il y a à peu près 2 millions de personnes en Allemagne, 1 million de prisonniers de guerre non encore rapatriés, 700 000 requis du service du travail obligatoire, et que les déportés, que ce soit les déportés résistants ou la toute petite frange des déportés qu'on appelait à l'époque ratio, de 2 000-2 500, à peu près 40 000, déportés dans les camps comme Buchenwald ou Dachau, ceux-là sont une infime minorité par rapport à cette grande masse de gens que Henri Freinet, qui a la charge d'un ministère qui s'appelle le ministère des PDR, prisonniers, déportés, réfugiés, va nommer d'une sorte de terme générique les absents.
Henri Freinet, justement, qui a été nommé, écoutez-le, en novembre 1943.
Le général de Gaulle m'a confié la tâche d'organiser le commissariat aux prisonniers déportés et réfugiés. Aux 3 millions de Français que la guerre, la défaite ou la trahison de Vichy ont éloigné de leur foyer, j'adresse le salut du Comité français de la Libération nationale. Nous pensons aux officiers tenus depuis 3 ans et 5 mois dans la mortelle inactivité des AFLAG, aux soldats retraints dans les commandos au travail pour l'ennemi, à ces familles alsaciennes ou lorraines arrachées à la terre ancestrale pour le seul crime de notre France française, à ces centaines de milliers d'ouvriers et de femmes chers de la chair de notre France, livrés comme esclaves aux ennemis de la nation, à ces hommes qui ont dû à leur courageuse lutte ou seulement à leur confession de connaître le travail forcé dans les conditions les plus inhumaines.
Et c'était donc Henri Freinet, ministre des prisonniers, déportés et réfugiés. On ne distingue pas à l'évidence les catégories. D'ailleurs, c'est dans un ordre d'importance décroissante.
L'ordre, ce sont d'abord les officiers de l'armée.
Oui, les OFLAG, dans les OFLAG.
Les OFLAG, en très bonne position, le problème des Alsaciens lorrains. Mmh. Et effectivement, la question des déportés, quels que soient d'ailleurs ces déportés, pratiquement pas posée. Et dans le dispositif, rien n'est prévu pour eux, la priorité étant le rapatriement des prisonniers de guerre, qui s'explique parce que quand Freinet parle en 43 et jusqu'au 8 ou au 9 mai 1945, la guerre continue. Et le fait que ces hommes en âge de porter les armes puissent être bloqués en Allemagne, quelque chose qui contrarie très fort le Comité français de la Libération nationale, puis le gouvernement provisoire. Et c'est très intéressant de voir que c'est petit à petit, en se rendant compte de ce qu'étaient les camps et en se rendant compte de l'état physique des survivants, que les choses vont un peu bouger.
Il y a une chose, justement, parmi les choses qui bougent, il y a une chose qui est très peu connue, c'est que Henri Freinet, qui était, il faut aussi le rappeler, un des grands résistants, le chef du mouvement combat, c'est-à-dire le plus important mouvement de la résistance à l'époque, nommé en 43, donc ministre du général de Gaulle, qui le restera dans son gouvernement provisoire. Freinet a même, il me l'a dit peu de temps avant sa mort en 88, il a même négocié très discrètement avec les Allemands de manière à pouvoir apporter du secours, parce que Himmler, on a dit hier, on l'a rappelé hier, Himmler avait déplacé les déportés de Auschwitz, mais il s'en servait comme d'otage aussi. Il y a eu des négociations épouvantables parce que il disait, voyez, je les tiens.
Voilà. Mais Himmler avait aussi une obsession qui était que s'il négociait bien avec les alliés occidentaux, il réussirait à retourner les alliés occidentaux avec lui contre l'Union soviétique dans cette obsession anti-bolchevique qui a été celle du nazisme. Donc c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de négociations, des négociations par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, et qu'un certain nombre de femmes...
Oui, il n'y a pas une rencontre directe entre Henri Freinet et Himmler.
Et un certain nombre de femmes de Ravensbrück ont pu effectivement quitter Ravensbrück et étaient...
La nièce du général de Gaulle.
Geneviève Antonioz de Gaulle, elle n'était pas Antonioz à l'époque. Ça a été aussi le cas de Germaine Tillon. Enfin, le cas d'un certain nombre de femmes qui ont pu être, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, sortir des camps avant même la libération des camps.
Et avant la libération des camps à l'ouest de l'Allemagne, dans celui de Dachau, qui avait été libéré par les troupes anglo-américaines le 29 avril 1945, ce jour-là, un rabbin américain, David Eyerkorn, s'adressait aux déportés libérés.
A day of celebration shall this be for you.
Que ce jour soit un jour de fête pour vous, un jour où chaque homme retourne dans sa famille et à sa juste place dans la société. Aujourd'hui, je m'adresse à vous à double titre, en tant que soldat de l'armée américaine et aussi en tant que représentant de la communauté juive d'Amérique. En tant que soldat américain, je vous dis que nous sommes très fiers d'avoir participé à la destruction de la plus cruelle des tyrannies.
C'était le dernier couplet d'un chant que tous les déportés connaissent, le chant des marais, qui se terminait, on en vendu, par l'espoir d'un retour. Un retour qui s'est pas fait tout de suite à Lévi-Vorka. On l'évoquait déjà un peu hier, dans le cas de Bergen-Belsen. Mais c'est vrai qu'entre le moment où ils sont libérés et le moment où ils sont rentrés, il s'est passé parfois des semaines.
Il se passe parfois des semaines, il se passe parfois des mois. Il y a des gens qui rentrent au mois d'août, 45 seulement. Ça dépend dans quelle zone ils se trouvent. Par exemple, les rapatriements de la zone soviétique ont été plus longs. On connaît la trêve de Primo Levi, qui est cette espèce de grande dérive avant qu'il rejoigne l'Italie un an après sa libération à Auschwitz. Donc la libération n'a pas été la libération pour beaucoup d'entre eux. On l'a dit, on a continué à mourir dans les camps. Il a fallu parfois des semaines et des semaines d'un rapatriement en camion, d'un rapatriement en wagon en bestiaux. Et Simone Veil disait, nous étions si peu nombreux et nous avions l'impression que nos vies comptaient si peu. Donc ces semaines sont restées chez ceux qui ont survécu des souvenirs très très amers en fait.
Il y avait aussi un manque, évidemment, de moyens. Il y avait beaucoup de gens à rapatrier, d'autant plus qu'on mélangeait, vous l'avez rappelé.
Toute l'Europe était prisonnière. Enfin, toute l'Allemagne était prise dans une sorte de mouvement brownien, de population réfugiée. Enfin, c'était un chaos.
Alors, parmi ceux qui sont rentrés les plus vite, et même avant même la capitulation de l'Allemagne, il y a les déportés de Buchenwald, rentrés en France, pour beaucoup d'entre eux, donc, en avion.
En même temps que l'Allemagne se vide de ses combattants, on commence à lui arracher aussi les millions de malheureux qu'elle a si longtemps tenus dans ses prisons. C'est la ruée vers les portes. On les avait poussés sur les routes comme un bétail. Ils reviennent par le ciel comme des oiseaux. Les voici au Bourget. Le long cauchemar s'est achevé pour eux avec toute la rapidité d'un rêve.
Au Bourget, tous les après-midi, des avions descendent du ciel pour déposer sur le sol de France des prisonniers et des déportés libérés quelques heures plus tôt en Allemagne. Aujourd'hui, ce sont les déportés politiques du camp de Buchenwald qui sont attendus. Déportés politiques. Quelle affreuse injure à la liberté et au respect de la personne humaine. Mais les boches nazies ne toléraient pas que des intellectuels français puissent critiquer par leur attitude ou par leurs propos courageux les exactions qu'ils commettaient.
Les déportés de Buchenwald, on le disait déjà hier, aussi à Lévi-Vorka, sont pratiquement les premiers à être revenus dans les camps, si bien qu'au fond, les premiers camps qu'ont connus les Français, ceux, les seuls même, dont ils ont parlé pendant des années, c'était Buchenwald, c'était aussi Dachau.
Oui. Oui, et je pense que ça a fortement contribué au brouillage entre les déportés. Alors, bon, c'est curieux, on les appelle déportés politiques. Ensuite, le terme de déporté politique sera le terme du statut pour les déportés juifs. Ceux-là auront un statut de déporté résistant. Mais le brouillage qui fait que un certain nombre de juifs d'Auschwitz ont été évacués à Buchenwald fait que tout le monde est libéré dans le même camp. Et c'est vrai que c'est ce premier retour, qui est d'ailleurs le retour le mieux médiatisé pour reprendre comme hier un anachronisme, c'est celui de ces grandes figures de la résistance.
Vous semblez dire qu'ils ont une certaine manière, le mot est horrible parce qu'ils ont souffert, on a souffert dans tous les camps bien sûr, mais un peu confisqué, c'est la déportation.
Ils n'ont pas confisqué la déportation. Ils étaient dans une période où on sortait d'une guerre, ils étaient des héros. Et les années qui ont suivi la guerre ont été les années où on célébrait l'héroïsme. Ensuite, ce terme de confisqué peut être plus acceptable dans la mesure où ils ont créé des associations et que dans ces associations, il n'y avait pas de place pour les victimes juives et pour un récit de ce qu'avait été la déportation des Juifs de France.
Alors après eux reviennent aussi fin avril, début mai, jusqu'en août même, vous le dites, à Lévi-Vorka, d'autres déportés raciaux, comme on les appelait, d'Auschwitz, de Bergen-Belsen, où se trouvaient parmi eux Simone Veil, ou encore des résistants, comme Germaine Tillion, revenue en France sans sa mère, qui avait été assassinée à Ravensbrück.
Paris accueille de son mieux ses survivants, prisonniers et déportés. Quelques formalités indispensables, et ils vont retrouver cette vie qu'ils ont quittée depuis des mois ou des années. Le souvenir indélébile dont l'ennemi voulait faire une marque infamante sera pour eux la plus glorieuse des décorations.
Quant à la période qui a suivi immédiatement mon retour de captivité, je veux dire en France...
Germaine Tillion,
C'est une des périodes où j'ai le moins de souvenirs visuels, de souvenirs photographiés. Si je voulais représenter cette période, je me représenterais comme, je ne sais pas moi, un hibou jeté à midi, place de la Concorde, quelque chose de cet acabit-là. Disons que je n'ai jamais passé un jour sans y penser. Je parle de... Oui, des souvenirs les plus cruels. L'impression de vivre dans le noir, oui. Tous mes souvenirs sont recouverts d'un voile noir.
C'était Germaine Tillion, donc, qui me rappelait son retour de Ravensbrück. Un commentaire peut-être sur les mots que
vous avez. Oui, le commentaire, c'est que la mère de Germaine Tillion, Émilie Tillion, a été conduite dans cette très petite chambre à gaz installée à Ravensbrück tardivement et a été assassinée dans cette chambre à gaz. Et ça m'amène au commentaire suivant. Dans cette question du retour, il y a aussi le fait de retrouver ou de ne pas retrouver les siens. Et je crois qu'une des différences majeures entre les déportés de la résistance et les déportés juifs, c'est que, en règle générale, Germaine Tillion constituant là une exception,
il retrouve,
parce que sa mère a été assassinée. Oui. Parce que sa mère a été assassinée dans le camp où elle était. Les gens retrouvent leur famille, retrouvent leur appartement, retrouvent leur occupation professionnelle. Or, en ce qui concerne les survivants de la déportation juive, les familles sont décimées. J'entendais ces jours derniers Ida Greenspan raconter comment elle rentre, elle n'a plus de parents, elle n'a rien. Immédiatement, elle travaille dans les ateliers de couture. Donc, la détresse de certains très jeunes, qui aujourd'hui on dirait que ce sont des ados, qui retrouvent rien, est quelque chose que l'on trouve maintenant poignant.
Ces retrouvailles... Et plus souvent, beaucoup plus souvent, l'absence de retrouvailles, ça se passait dans un hôtel très célèbre de Paris, qui était l'hôtel Lutetia, à Nevievorka, et qui avait été réquisitionné. Et là où se posait, je me souviens avoir posé la question à la personne qui a été responsable, qui est décédée aujourd'hui, qui était aussi responsable des enfants d'Isieux, et qui en avait gardé, qui avait fait des cauchemars toute sa vie, Madame Zalkine, qui me disait que un des grands problèmes, il y avait un problème psychologique, bien sûr, qui se posait, et même des problèmes matériels terribles. Comment faire vivre, comment nourrir ces déportés qui étaient complètement décharnés quand ils arrivaient à l'hôtel Lutetia?
Oui, c'est vrai. Mais vous voyez, vous avez des bandes-sons de l'arrivée au Bourget des résistants. Et quand on veut parler du Lutetia, il n'y a pas une bande-son. Il n'y a pas un film. On arrive à trouver quelques photos. Et je pense que cette absence de traces montre tout simplement à quel point on ne s'intéressait pas à ces questions. Et c'est vrai que c'est Sabine Zadkine avec Agnès Bidault, la sœur de Georges Bidault, qui ont réquisitionné ce très grand hôtel, qui avait servi de siège de l'Abwehr dans les années précédentes, et qui se sont dépensés sans compter pour réussir à trouver de quoi nourrir ces personnes dans une période où, il faut peut-être aussi le rappeler, la pénurie était quand même générale dans notre pays.
Alors il y a problème matériel, l'épreuve physique aussi, comment nourrir, comment faire revivre physiquement ces déportés. Il y a aussi l'impossibilité pour eux de communiquer leur expérience à ceux qui les accueillaient en France en 1945.
Les femmes aussi ont souffert ce martyre. 300 survivantes du camp de Ravensbrück sont rentrées. Rien ne peut racheter ni compenser les souffrances de ces hommes et de ces femmes. Mais nous avons un devoir envers eux. Et envers ceux qui ne reviendront jamais, ne rien oublier.
Alors aujourd'hui,
Simone Veil,
on refait beaucoup l'histoire, tout d'un coup, on en parle, on dit que après Auschwitz, plus rien ne sera pareil, on l'a dit tout de suite d'ailleurs, et puis on essaye de comprendre pourquoi on n'en a pas plus parlé, pourquoi... en disant c'est parce que les déportés n'ont pas voulu en parler, c'est parce que ils ont cherché l'oubli eux-mêmes. C'est pas vrai du tout. Il suffit de voir le nombre de rencontres qu'ils ont entre eux et je dirais la joie qu'ils ont à se retrouver. Mais si nous n'avons pas parlé, c'est parce qu'on n'a pas voulu nous entendre, on n'a pas voulu nous écouter. Parce que ce qui est insupportable, c'est de parler et de ne pas être entendu. C'est insupportable. Et c'est arrivé tellement souvent à nous tous. que quand nous commençons à évoquer, que nous disons quelque chose, il y a immédiatement l'interruption. Il y a la phrase qui vient couper, qui vient parler d'autre chose, parce que nous gênons. Profondément nous gênons. Pour des raisons probablement très profondes, qui ne sont pas simplement le fait qu'on veut nous faire taire par indifférence, c'est parce qu'on n'a pas envie d'entendre.
C'était Simone Veil au micro de l'Histoire en direct de France Culture en 1988. Si on a mis du temps à comprendre ce qui s'était passé dans les camps, et notamment dans les camps d'extermination, Annelle Vorka, il y a plusieurs raisons, bien sûr. Il y a d'abord la mort de la majeure partie des gens qui sont allés dans les camps d'extermination. Il y a aussi, dit-on, parce que c'était, on pouvait pas communiquer. Et puis il y a ce que l'on vient d'entendre, ce que disait Simone Veil, parce qu'au fond, on ne voulait pas écouter.
Je pense que Simone Veil a raison, parce que après l'avoir entendu dire cela en 88, j'ai creusé cette question dans ma thèse. Et j'ai trouvé effectivement un nombre extrêmement important de manuscrits, certains publiés mais ne trouvant pas de lecteurs, certains publiés 40 ans ou 50 ans après parce que ils n'avaient pas trouvé d'éditeur, et dans Auschwitz 60 ans après, je décline tous les encore. C'est-à-dire dès 46, on considère qu'on en parle trop alors qu'on n'en a pratiquement pas parlé. Donc je crois qu'elle a raison, on n'a pas voulu écouter. Je crois ensuite qu'il y a des raisons politiques qui font que très vite après la guerre, c'est la guerre froide, et que très vite la question des camps devient un enjeu de guerre froide entre ceux qui, comme David Rousset, disent il y a des camps concentrationnaires aussi dans les pays communistes, et ceux au contraire qui se servent des camps nazis pour stigmatiser le capitalisme en montrant tous les autres pays où il y aurait aussi des camps concentrationnaires. Donc il y a effectivement une multitude de raisons. Reste quand même qu'il y a ce que Annie Stern, psychanalyste et ancienne d'Auschwitz, appelle un savoir déporté. Et que ce savoir déporté est très difficilement compréhensible pour qui ne l'a pas été.
Annette Vorka, on a mis aussi, il y avait pas beaucoup de documents filmés. Il y a eu un film dont on a beaucoup parlé en 1956, qui était Nuit et brouillard, où il est question de déportation, le premier en France. Et là, on ne parle pas de la Shoah, ou plutôt on confond l'ensemble de ce qui s'est passé dans les camps. Inversement, depuis, on en parle beaucoup plus. Je pense par exemple, évidemment, au Shoah de Claude Lanzmann. Est-ce que, justement, aujourd'hui, qu'on en parle beaucoup plus, on n'a pas tendance à confondre la déportation et la Shoah, parce que tous les déportés,
alors,
ceux qui sont restés...
Alors, il est possible que Nuit et brouillard soit plus compliqué que ce qu'on en a dit. Et je renvoie à l'article de Sylvie Lindeperre dans le dossier de la revue Histoire sur le tournage. Parce que René a quand même tourné à Birkenau et à Majdanek. Donc, c'est probablement plus compliqué. Mais je serais d'accord avec vous que aujourd'hui... la mémoire de la Shoah a effacé la mémoire de la déportation résistante. Et je crois quand même que il y a place pour toutes les histoires et pour toutes les mémoires. Et que ce n'est pas parce qu'il y a dans la Shoah quelque chose de qui fait que c'est probablement l'événement majeur du XXe siècle par son énormité et par sa monstruosité que l'on doit effacer les autres histoires.
Simone Veil, en 88, on entendait, disait, au fond, on gênait. Maintenant, on en parle beaucoup, il y a un mémorial qui vient de s'ouvrir à Paris.
Il est refondé, ce mémorial, oui. Parce que ce mémorial s'est quand même ouvert en 56.
Oui. Mais le chef de l'État était allé à Auschwitz. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ce que disait Simone Veil en 88, nous gênons?
Non. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de le dire, et je crois que ce qui s'est passé pour le 60e anniversaire est quelque chose qui est très important. Je pense que la reconnaissance par le chef de l'État de la responsabilité de l'État français, enfin de Vichy, dans la déportation des Juifs de France...
En 1995, paroles, 40 ans après la guerre.
Et les paroles très fortes qu'il a prononcées... sont des paroles qui permettent à cette histoire de s'installer et qui permettent peut-être un peu de sérénité chez les anciens d'Auschwitz qui sont encore parmi nous.
Et quand les derniers témoins seront morts, Annie de Vorka,
quand les derniers témoins seront morts, ça voudra dire tout simplement que ceux qui sont vivants, qui ne sont plus les nos contemporains d'aujourd'hui. Mais c'est le mouvement de l'histoire. Et il y a beaucoup de choses dont on se souvient, 14-18, au la Saint-Barthélemy, où il n'y a pas de témoins.
Et puis c'est aussi l'importance des livres, et notamment le vôtre, Agnès Evorka, Auschwitz, 60 ans après, donc, qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Merci d'être venu nous parler du retour des déportés, à lire également un grand nombre d'ouvrages sur le sujet, donc, qui viennent de paraître, et dont vous pouvez retrouver les références sur notre site internet, franceinter.com. Vous avez pu entendre le témoignage de Simone Veil et Germaine Tillion, extrait de l'émission L'Histoire en direct du retour des déportés, diffusée sur France Culture en mai 88, ainsi qu'un extrait du documentaire Auschwitz, la solution finale, un document en 6 épisodes de Laurence Ries, diffusé ce soir et demain sur la chaîne Histoire à 20h50, ainsi que dans son intégralité le dimanche 30 janvier à partir de 13h50. À voir aussi de Nuremberg à Nuremberg, de Frédéric Rossif, écrit et dit par Philippe Meyer, est disponible chez Montparnasse Distribution, en VHS et en DVD. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Olivier Riotor, Claire Destacan, Claire Tesser, Violaine Ballet et Anne Kobilac, notre réalisatrice. Bonne fin de semaine à tous et à lundi. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. Lundi et mardi, une histoire des sous-marins. Mercredi, une boisson sacrée pour beaucoup de religions, le vin. Jeudi, les relations entre De Gaulle et Roosevelt, et elles ont été difficiles. Enfin, vendredi, un maréchal d'en...